Au nombre de choses qui sont peut-être le plus difficile à comprendre pour un homme noble, se trouve la vanité. Il sera tenté de nier son existence là même où, pour une autre espèce d'homme, elle crève les yeux. Le problème consiste pour lui à se représenter des êtres qui cherchent à créer une bonne opinion pour ce qui les concerne, opinion qu'ils n'ont pas eux-mêmes, et qu'ils ne méritent donc pas, tout en finissant par croire à cette opinion. Cela lui semble d'une part de si mauvais goût, si irrévérencieux à l'égard de lui-même, d'autre part si baroque et si fou, qu'il regarderait volontiers la vanité comme une chose exceptionnelle et qu'il la met en doute dans la plupart des cas où on lui en parle. Il dira par exemple « Je puis me tromper sur ma valeur et me demander pourtant, d'autre part, que ma valeur soit reconnue par les autres précisément dans la même mesure où je l'estime. Mais ce n'est pas là de la vanité, c'est plutôt de la présomption où, dans la plupart des cas, ce qui a été appelé humilité et aussi modestie. » Ou bien il dira encore « Je puis, pour diverses raisons, me réjouir de la bonne opinion des autres, peut-être parce que je les honore et les aime, et je me réjouis de toute leur joie, peut-être aussi parce que leur opinion souligne et renforce en moi la foi en ma propre bonne opinion, peut-être parce que la bonne opinion d'autrui, même dans les cas où je ne la partage pas, m'est pourtant utile ou me promet de l'être, mais tout cela n'est pas de la vanité. » L'homme noble doit avant tout se forcer à croire, surtout à l'aide de l'histoire, que depuis des temps immémoriaux, dans toutes les couches populaires dépendantes, l'homme du commun n'était pas ce qu'il passait pour être. Comme celui-ci n'était pas habitué à créer des valeurs par lui-même, il ne s'attribuait pas d'autres valeurs que celles que lui prêtaient ses maîtres. Créer des valeurs, c'est par excellence le droit des maîtres. Sans doute, il faut attribuer à un prodigieux atavisme le fait que l'homme commun, aujourd'hui encore, attend que l'on se soit fait une opinion sur lui, pour s'y soumettre ensuite instinctivement. Et il se soumet non seulement à une bonne opinion, mais encore à une opinion mauvaise et injuste, que l'on songe par exemple à la grosse part d'appréciation et de dépréciation de soi que les femmes pieuses apprennent de leurs confesseurs et qu'en général le chrétien croyant apprend de son Église. En réalité, grâce à la lente marche en avant de l'ordre démocratique, et de ce qui en est cause, le mélange des races dominantes et des races esclaves, le penchant, jadis solide et rare, de s'appliquer à soi-même une valeur propre et d'être bien pensant au sujet de soi, sera maintenant de plus en plus encouragé et se développera toujours davantage. Mais ce penchant aura toujours contre lui une tendance plus ancienne, plus large, plus essentiellement vitale, et dans le phénomène de la vanité, cette tendance plus ancienne se rendra maîtresse de la plus récente. Le vaniteux se réjouit de toute bonne opinion que l'on a de lui, sans se mettre au point de vue de l'utilité de cette opinion, sans prendre en considération son caractère vrai ou faux. Comme d'ailleurs il souffre aussi de toute mauvaise opinion, car il s'assujettit à deux opinions, il se sent assujetti à cause de cet instinct de soumission d'origine plus ancienne qui prend le dessus. C'est l'esclave dans le vaniteux, un résidu de rouerie de l'esclave, et combien y a-t-il d'éléments esclaves qui subsistent encore? Dans la femme, par exemple, qui cherche à égarer la bonne opinion sur son compte, c'est encore l'esclave qui se met aussitôt à se prosterner devant cette opinion, comme si ce n'était pas lui qui l'a provoquée. Et je le répète, la vanité est un atavisme.